France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Miguel Da Silva, je suis né le 7 janvier 1961 à Reims et je suis altiste.
L'histoire du Quatuor Isaïe, c'est une histoire qui a connu des rebondissements pendant 30 ans, hein, Miguel Da Silva. Vous êtes resté là. Luc Marie Agara aussi, hein, est arrivé très vite et est resté là. Il y a un moment où il va y avoir un changement très important.
Oui.
C'est Guillaume Sutre qui va prendre la suite de Christophe Giovanninetti.
Tout fait.
Et puis c'est Marc Copet qui va prendre la suite de Michel Poulet.
Absolument. Donc ça s'est passé... Après quelques années de quatuor, où Christophe Giovanninetti était toujours la même personne exigeante, mais je dirais que la pression de la maison de disques, on était en pleine ascension avec Decca, il y avait donc ces 6 Mozart et Haydn qu'on avait joué dans tous les grands festivals dans le monde, il y avait cette intégrale Mendelssohn, qui de mon point de vue ne nous a pas aidé, cette musique de Mendelssohn jubilatoire, épicurienne, où... le naturel, est très important. C'était pas quelque chose que Christophe a réussi à l'imprimer au disque, mais en travaillant énormément. Et je pense que ça nous a tous un peu usés, à tel point que au concert, il y a eu une sorte de fatigue. Et pour pouvoir être à ce niveau-là, c'était de tels efforts que très intelligemment, on s'est parlé. Il m'a dit, écoute, si un jour vous vouliez me remplacer, moi je me vois pas vivre comme ça pendant des années. Donc voilà, bon, c'était dans un coin de ma tête. Et puis Michel Poulet, c'était autre chose. Ça a été beaucoup plus difficile et ça a été une histoire qui s'est cicatrisée me concernant maintenant, mais qui a été une histoire violente. Michel Poulet était un violoncelliste, un quartettiste né, un remarquable musicien, qui n'avait peut-être pas l'aisance technique et l'aisance au quotidien d'un violoncelliste, d'un quatuor à cordes qui tourne, on va dire. Et puis, à cette époque-là, je me sens vouloir jouer aussi avec des jeunes à côté. Et donc, Marc Copet devient un ami proche et me parle de Guillaume Sutre, qui est le violoniste du trio Vandereur. Et puis, on se met dans des concerts comme ça que l'on organise... en famille, à jouer du trio à cordes, le Divertimento de Mozart, par exemple, le grand trio à cordes de Mozart. Et puis, au détour de conversation, Guillaume, d'une manière très spontanée, me dit, tu fais le métier que j'aurais rêvé faire, le quatuor à cordes. C'est vraiment bête, parfois les rencontres se font pas au bon moment, mais si on s'était à refaire, j'aurais bien aimé faire du quatuor à cordes avec toi, tout ça. Puis moi, je lui dis, c'est une carrière magnifique avec les Vandereurs, mais nous, on va changer. On va certainement chercher un jour un violoniste, tout ça. Et les choses sont faites comme ça. Et Guillaume Sutre m'a tout de suite dit qu'il voulait jouer avec un violoncelliste vraiment qui apporte quelque chose au groupe. Et donc, autant Christophe Giovanninetti est parti en étant en quelque sorte, je dirais pas soulagé, mais triste, certes, mais apaisé, je dirais. Autant chez Michel, qui était mon ami d'enfance, c'était donc à moi de lui dire les choses. Ça a été des choses violentes.
C'est-à-dire que l'arrivée de Guillaume était dépendante du départ de Michel ?
Un petit peu. Et tout de suite, le nom de Marc Copet est venu, et bien sûr. Et là, ça a été pour moi les grandes années du Quatuor Isaïe. Les répétitions étaient passionnantes. Que ce soit Marc ou Guillaume, c'était des musiciens qui avaient le même niveau en répétition qu'au concert. C'est-à-dire, ils lisaient pratiquement au même niveau qu'à la fin du travail au bout d'un mois. Donc le travail, les échanges musicaux étaient denses, et c'était plus une direction artistique collégiale. Là, on a senti une deuxième vie, un souffle qui allait nous emmener à un autre endroit, je dirais. Je dirais pas plus loin, mais à un autre endroit.
L'alto et le violoncelle sont très proches.
Oui, très proches. Très proches, très très proches, mais on a chacun notre spectre sonore. Donc, ce qui fait que l'alto peut être à l'aise dans un quatuor, c'est lorsque le violoncelliste développe un habitus du quatuor à cordes très large, c'est-à-dire qu'il y a des cordes graves profondes. Mm-hmm. Ça laisse de la place à l'alto qui est dans le médium. Donc, nous avons eu à l'époque. Avec Michel depuis l'enfance, avec Marc Copé.
Marc Copé n'est pas resté jusqu'à la fin.
Non.
Est arrivé François Salk.
Oui.
Qui apporte autre chose.
Une fraîcheur, un courant d'air, une magie. Mais peut-être trop tôt pour lui, ou une rencontre peut-être pas au bon moment, pour lui comme pour nous. Mais encore une fois, ces différents acteurs qui sont venus ont nourri le quatuor. Après Jovan Markovic, avec lequel on a entamé notre carrière, oui, vous sous-entendez peut-être que nous n'aurions pas trouvé notre violoncelliste.
Il y en a eu cinq.
Force est de constater qu'il y a eu cinq violoncellistes, et force est de constater aussi, si je peux me permettre, qu'ils sont proches de moi. C'est ça, ils sont pas très loin de moi. Donc ce que vous essayez de faire dire.
Ah, c'est pour ça que vous souriez. Je n'y pensais pas quand je vous ai dit que l'alto était proche du violoncelle. Je ne pensais pas une seconde.
Non, je pensais que vous pensiez à ça.
Ah, pas une seconde. Non, c'est vous qui me le faites penser maintenant. Et alors, peut-être, je vous pose la question, Miguel da Silva, du pourquoi autant de violoncellistes qui, c'est vrai, sont juste à votre gauche.
Difficile à vous répondre. Ce que j'aime dans l'identité du violoncelliste de quatuor, c'est cet instrument ancré dans le sol. C'est cet instrument qui joue la fondamentale d'un accord. C'est cet instrument qui tient l'édifice du quatuor à cordes. C'est aussi un mythe, ça, du changement dans un quatuor. On dit, moins vous changez, plus vous allez vieillir ensemble. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que ça dépend de l'intelligence et de la façon dont le nouveau partenaire s'intègre. J'ai fait mon métier avec mes meilleurs amis.
Mais ça, ce n'est pas forcément facile.
Alors sur le moment, on se dit que c'est pour la vie et que c'est merveilleux, ouais. Et que on a tout gagné. Et puis après, on s'aperçoit que c'est plus compliqué quand on n'est plus vraiment d'accord. Mmh. Et puis quand il y a d'autres directions à prendre dans la vie, que ce soit la vie privée, parce que là on parle de quatuor à cordes, mais là on est en train de grandir, on a des familles, on a des
et la famille est obligée de partager avec le quatuor à cordes.
Ben, oui. Moi, j'ai été dans ma première vie, avec mes enfants, un quartettiste, quoi. Mes enfants ont été à la fois nourris par cela et ont subi cela. Mmh. Si elles pouvaient être interviewées, je pense qu'elles diraient cela. Voilà. Et ça pendant beaucoup d'années.
Et beaucoup de joie et beaucoup de sacrifices.
Beaucoup de sacrifices et beaucoup de joie. Si c'était à refaire, je referais tout de la même façon.
Thank you. dans les rendez-vous forts du quartettiste. On a évoqué Haydn rapidement, qui est comme la Bible en fait.
La grammaire essentielle. La grammaire essentielle. Classique. Celui qui donne forme au quatuor à cordes, qui définit ce que va être le quatuor à cordes et qui définit une écriture dialogique et qui définit tout. On surfe encore sur ce cadre aujourd'hui.
Et évidemment, l'intégrale des quatuors de Beethoven, je crois que ça vous est arrivé une dizaine de fois de jouer cette intégrale. C'est véritablement une traversée comme ça d'une pensée, d'une écriture, en allant peut-être de plus en plus vers une forme d'abstraction aussi. Ça, c'est quelque chose qui change un artiste.
Un homme. Ça vous change, vous. Enfin, ça change un homme, je pense. Enfin, moi, je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas joué cette musique. Je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas tenté l'ascension de cet Everest, que vous tentez plusieurs fois, ou une dizaine de fois, et qu'à chaque fois, lorsque vous l'avez terminé, vous lui dites « Mais non, la prochaine fois, je ne vais pas m'y prendre comme ça. Là, je ferai différemment ça, ça, ça. » Et puis, vous essayez différemment. Mais en fin de compte, il y a d'autres problèmes qui se créent. Et puis on l'a fait plusieurs fois d'une manière chronologique. Ça, c'est bouleversant. Parce que vous sentez vraiment un jeu sur votre instrument qui change. Pour essayer de vulgariser d'une manière un peu intelligente, vous commencez avec cette esthétique un peu à la Haydn, de verticalité. Et puis après, vous allez vers une chose qui vous dépasse, une virtuosité qui, pour l'époque et encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficilement jouables. Quoi. Quand on prend la cadence du mouvement lent du premier Razumovsky, pour le premier violon, c'est le concerto de Beethoven pour violon, c'est plus facile. C'est pas moi qui le dis, c'est Franz Peter Zimmermann qui dit ça. Après ça, vous avez cette musique en fusion, l'opus 59 numéro 3 avec cette fugue où c'est vraiment une éruption. Ça à maîtriser techniquement ensemble, c'est très difficile. Puis après, vous avez cet opus 127, le 12e, et vous êtes devant une musique orchestrale. Avec des moments d'une densité extrême, et puis vous arrivez jusqu'à la grande fugue, où là, avec un peu les forces du désespoir, pour terminer cette intégrale, ce jaillissement, cette musique abstraite, cette musique chaotique, c'est la musique du chaos, la musique d'aujourd'hui, quoi, musique moderne. Beethoven, c'est un compositeur moderne.
Et puis à un moment, arrive moins de désir, moins d'envie, et comme dans le quatuor de Beethoven, que vous avez choisi d'ailleurs pour votre concert d'adieu, hein, oui. Muss es sein, es muss sein, ce doit être, c'est la fin.
Voilà, c'est la fin, je pense qu'on était allé au bout, que ce soit de la motivation, des sacrifices, humainement aussi, et nous étions arrivés, on était fatigués, meurtris, mais assez réconcilié, je pense. En tout cas, 2014, ce concert, quand j'y pense, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de l'apaisement. J'ai ressenti un monde nouveau qui allait s'ouvrir à moi.
Une liberté.
Et surtout une promiscuité avec mes collègues qu'il fallait stopper là. C'était bien. C'était le bon moment. Ça aurait pu être un peu plus tôt même. Mais 2014, 30 ans, c'était bien.
Vous en avez 60. Vous avez passé à ce jour la moitié de votre vie en quatuor.
Oui. C'est effrayant. Je trouve ça effrayant. Mais je trouve ça... tout ce que j'ai vécu en quatuor m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Je suis pétri de ça, nourri de ça. Je n'aurais pas vécu une autre vie musicale que celle-ci. C'est pas possible. Malgré les sacrifices et malgré les orages et les drames, parce qu'il y a eu des drames.
Vous diriez que c'est le prix à payer ?
Pour moi, ça a été le prix à payer. Peut-être c'est une forme d'égoïsme, il faut le reconnaître, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me portait vers ce chemin-là. Il fallait aller au bout de ce chemin-là.
L'œuvre à faire passait avant.
Voilà. Et je suis désolé des dommages collatéraux importants, mais ça ne pouvait pas être autrement.
Miguel da Silva, dans cette vie, vous avez beaucoup reçu de professeurs, de maîtres, de modèles dont vous avez rêvé. Vous avez cette fibre pédagogique. Vous vous êtes donc mis à enseigner, et à enseigner pas l'alto, mais à enseigner le quatuor. C'était même une première en France.
Absolument.
La première classe de quatuor à cordes est née avec vous, Quatuor Isaïe. Et ça, c'est au CNR, au CRR.
CRR maintenant, à l'époque CNR.
Ah, ça s'enseigne comment, le quatuor à cordes ? Comme vous l'avez reçu des Amadeus, c'est-à-dire tous les quatre ou séparément ?
Nous l'avons toujours enseigné, sauf exception parfois dans des masterclass, tous ensemble quand on nous le demande, ou deux par deux, mais généralement individuellement. Et c'est une classe particulière, je dirais, à niveau multiple. C'est-à-dire que cette classe a été créée non pas uniquement pour former, et on a eu beaucoup de chance parce que nous avons eu très tôt des quatuors qui aujourd'hui font des magnifiques carrières, et ça a été pour nous une publicité et une aura importante. Mais cette classe n'a pas été créée pour construire des quatuors de très très haut niveau, pour faire gagner des concours ou faire des grandes carrières. Cette classe a été construite pour cultiver l'écoute du musicien, pour essayer de faire évoluer plus tard le jeune musicien dans le cadre d'un orchestre et de lui faire comprendre ce à quoi je crois, qu'il y a certes quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui vous donne la direction, qui vous donne le tempo, mais il y a surtout des gens qui vous entourent, qui font des sons dans lesquels vous devez absorber les choses, et encore une fois, vous devez vous abandonner. Mais il n'y a pas que ça, c'est un pupitre qui doit fabriquer un son, qui doit travailler une alchimie du son et proposer quelque chose justement en tant qu'entité à 8 altistes, 8 violons, 8 ce que vous voulez. Donc l'idée c'était ça, de travailler l'écoute et de faire comprendre à ces jeunes musiciens, à ces jeunes quartettistes en herbe, que c'est souvent l'accompagnement qui dirige la mélodie et non pas...
La mélodie qui lead. Ça, c'est l'altiste qui parle, non ?
C'est le musicien. L'accompagnement n'accompagne pas, il suggère. Donc c'est ça qu'on a essayé, c'est dans cette direction-là qu'on a essayé d'ouvrir cette classe. Avec des quatuors français qui font carrière maintenant, qui ont été avec nous
Les Voce, très, très les Modigliani, les Ben, les Hermès, les Psophos,
voilà.
Trio Bouche, plein d'ensembles magnifiques.
Alors, l'idée de cette classe, pardon, c'est qu'on a voulu rendre ce qu'on est allé chercher chez les Amadeus, chez Walter Levin et chez tous ces gens à l'étranger. J'ai trouvé que c'était normal de ramettre en France une tradition qui était présente au début du XXe siècle avec le quatuor Capet, qui s'était un petit peu oublié après la guerre. Donc, fort de cette réussite un peu dans le cadre de cette classe au CRR, je me suis dit que j'aurais peut-être quelque chose à faire avec l'alto. Et donc, je suis présenté pour prendre la succession d'une remarquable altiste, Nobuko Imai, à Genève. Et donc, j'essaye de guider des jeunes étudiants à Genève. Et puis, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'être appelé par la direction de la chapelle musicale Reine-Élisabeth pour ouvrir et enseigner l'alto. Comme à la chapelle, il n'y a que des gens que j'admire et qui sont mes amis, que ce soit Augustin Dumay et Gary Hoffman, entre autres, Louis Lortie maintenant, Avoko Yuminjan, enfin c'est une... Mais c'est autre chose, la chapelle est une sorte d'expérience, un centre de recherche, ce n'est pas une école comme Genève où là, les jeunes sont plus jeunes et puis on les forme d'une manière... La chapelle doit arriver après, il ne faut pas griller les étapes.
quelqu'un dont on n'a pas du tout parlé, pourtant, c'est quelqu'un d'essentiel, c'est votre alto.
Ah, alors, mes altos ont été des compagnons de route. Oui, j'ai un alto de Storioni, qui est ma voix un petit peu dans le Quatuor Isaïe, avec lequel j'ai enregistré, avec lequel j'ai fait toute ma carrière, un magnifique instrument, la voix très, très alto, mais très alto, mélancolique, une belle étoffe vénitienne, je trouve, voilà, enfin, un alto que j'aime beaucoup. Et puis, il y a eu une rencontre importante que je pensais jamais faire, mais là, encore une fois, je suis quelqu'un qui a une chance folle, moi. Au détour d'une phrase avec un luthier, il me dit, mais vraiment, votre alto est super, c'est l'alto de votre vie. Je dis, oui, oui, je trouve ça magnifique, mon Storioni. Il me dit, vous avez raison, il est beau, voilà. Et vous n'avez jamais pensé à changer, ou Gasparo da Salo, ou, je dis, ah non, Gasparo da Salo, cette école-là, je n'aime pas tellement, c'est trop près du violoncelle, trop large, trop, non, ça ne me tente pas du tout. Et je dis, il y a un instrument que j'aimerais essayer, c'est l'alto de Bergonzi de Peter Schidloff, l'altiste du Quatuor Amadeus.
On boucle la boucle.
Voilà, qui jouait l'alto Stradivarius de McDonald, qui est en vente en ce moment, et qui jouait le Nicolas Bergonzi, instrument avec lequel il jouait toujours en soliste et avec lequel il préférait enregistrer. C'est incroyable, 6 mois après, on m'appelle en me disant, voilà, cet instrument réapparaît, est-ce que ça vous intéresserait de le voir? Alors, ben, je dis oui, bien sûr, voilà. Et puis je l'ai en main, je le vois, je le joue, et bon, ben, c'est l'alto de ma vie. Donc là, se met en branle toute une recherche de mécénat, et une fondation achète l'instrument et je peux le jouer. Et donc voilà, il y a un petit bout de Schidloff, là, comme ça, avec moi, quotidiennement, il y a un peu la voix de Peter Schidloff qui est là, et ça, moi, ça me... le gamin de Reims qui a commencé avec Madame Propage, d'un père portugais, brésilien, je suis assez fier.
Et votre père qui voulait que vous réussissiez, on peut dire que vous avez réussi, vous êtes fier de ça, c'était important.
Oui, bien sûr, très important. Très important pour lui, je pense, un peu moins maintenant. La disparition de mon père a été quelque chose de difficile. 92, ma fille avait 1 an. La disparition de ma mère a été plus facile à digérer parce que j'ai l'impression d'être allé au bout de la relation, d'avoir fait le tour. Enfin, voilà, on était en paix, serein. La boucle était bouclée. Mon père, je voudrais tellement qu'il voit tout ce que j'ai fait, bien sûr. C'est quand même une vie incroyable, enfin, arriver manœuvre et pas savoir écrire le français, et puis avoir un fils qui vous parle pendant une semaine à la radio. Enfin, il était bègue en plus, mon père. C'est drôle, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça. Ça me bouleverse personnellement.
L'altiste franco-suisse Miguel da Silva referme cette série en jouant un fado en 2008 avec la chanteuse Misia. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yann Fressy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.